Bonjour, auditeurs de Fréquence Mistral. Nous voilà à nouveau réunis autour d'un livre. Aujourd'hui, Hubert Mingarelli. Hubert Mingarelli pour son livre « Un repas en hiver ». Pourquoi Mingarelli ? Nous l'avions reçu deux fois à Gap et nous voulions l'inviter encore au début de 2020 pour la sortie de son dernier livre, « La Terre invisible », qui avait été sélectionné pour le Goncourt. On lui avait envoyé un mail pour lui demander s'il pouvait venir. Et il nous avait répondu « Je ne peux pas, je suis malade ». Et le 26 janvier, la nouvelle nous parvenait. Hubert Mingarelli est mort des suites d'une longue maladie. Il était né en Lorraine en 1956. Il a très peu connu sa mère qui est morte alors qu'il était tout jeune. Il a vécu auprès d'un père immigré italien. Il quitte l'école à 17 ans. Il s'engage dans la marine et il va assister dans le Pacifique aux essais nucléaires français. Il nous raconte cette expérience traumatisante dans une de ses nouvelles qui s'appelle « Océan Pacifique » que je vous conseille de lire aussi. Il commencera par dessiner et puis il va vers l'écriture qu'il n'abandonnera plus. Il vivait dans notre région, au-dessus de la Mure, donc pas très loin de chez nous. Comment définir la singularité de Mingarelli ? Il y a quelques mots qui me viennent en tête. Épure, minimalisme, pudeur, discrétion, silence, retenue. Il y a trois ou quatre personnages, pas plus, dans ces livres. Des hommes humbles qui souffrent, malmenés par la vie, mais qui ne se résignent pas, qui font face, déterminés à continuer en gardant leur dignité. On suit ces personnages quelques heures, quelques jours tout au plus. Ils sont souvent dans des pays lointains. Et le temps n'est jamais déterminé. On ne sait pas quand est-ce que l'action se passe. Hubert Mingarelli tisse leur histoire avec des détails infimes de leur vie quotidienne, des morceaux de silence, surtout des regards, des gestes qui remplacent les paroles, des sentiments que l'on n'exprime pas. On ne s'épanche pas chez Hubert Mingarelli. Il ne nous dit de ses personnages que l'essentiel. Leur vie, en général, est faite de solitude, de rêves brisés, mais aussi, ce qui est essentiel aussi là, des moments de solidarité, de partage, de compassion qu'on attrape au vol comme ça, au détour d'une page, et qui rendent ces personnages si attachants. Dans ce livre, il n'y a pratiquement jamais de personnage féminin. On lui avait posé la question « Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes dans vos livres ?» Il nous avait répondu « Mais mes personnages font ce qu'ils font parce que justement, les femmes sont absentes. Et ce sont elles qui sont les personnages principaux. Ce que font mes personnages est déterminé par cette absence. » Mingarelli n'était pas un militant écologiste. Il ne poussait pas de cris d'indignation sur ce qui se passait. Mais il savait dans ses livres nous faire prendre conscience que l'homme était en train de mettre en péril la beauté du monde. Sur son écriture, je dirais quelques mots, une écriture intimiste, dépouillée, faite de phrases courtes. Il se met au plus près de l'émotion de ses personnages et il leur donne une épaisseur universelle. Ses phrases sont nettoyées jusqu'à l'os, disait son éditeur. Nettoyées jusqu'à l'os. Et le lecteur qui arrive au bout de ces histoires faites de presque rien les garde au fond de lui. Car ce sont des voix que l'on entend longtemps après avoir refermé le livre. Avant de vous présenter un repas en hiver, juste quelques titres comme ça qui peut-être vous avez lu un jour. Marcher sur la rivière, océan Pacifique, le voyage d'Eladio, homme sans mer, Quatre soldats, écrit en 2003 et qui lui avait valu le prix Médicis. la beauté des loutres, la dernière neige, une rivière verte et silencieuse, etc., etc. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous présenter Un repas en hiver. C'est un roman poignant. Il n'est pas long, il a une centaine de pages, 120 pages, quelque chose comme ça. Donc, il a été publié chez Stock en 2012. On est en Pologne, dans un camp de prisonniers. Trois soldats quittent le camp avec une mission. Il faisait nuit, il gelait. La route était plus dure que la pierre. On marcha longtemps sans nous arrêter dans le froid, sous un ciel gelé. On alla si loin sans nous arrêter qu'on n'entendit rien, pas même l'écho de la première fusillade. La question que l'on se pose, c'est où vont-ils ? Qu'est-ce que c'est que cette fusillade dont parle justement le narrateur ? Le narrateur, qui est un des trois soldats, il évoque leur but d'une façon qui reste assez mystérieuse. Des arbres parfois se dressaient dans les champs, des meules de foin aussi, bien arrondies et entièrement recouvertes de neige sous le ciel en aluminium. Au printemps, on en avait trouvé dedans, pas nous particulièrement, Émeric, Boer et moi, mais nous savions qu'on en avait trouvé. Inutile aujourd'hui de s'enfoncer dans la neige pour aller voir et chercher dedans. Qui aurait été dans une meule de foin aujourd'hui avec un froid comme ça ? Et pas seulement un froid qui avait commencé hier. Boer dit soudain, « Si on n'en trouve pas ?»« Eh bien quoi ?» demanda Émeric. Boer imita la démarche d'un vieillard, peinant encore plus que nous sur la route et dit, « Jusqu'où on va avant de rentrer ? Combien de temps on restera dehors ?»« Attendons au moins qu'il fasse nuit, » répondit Émeric, « qu'on ait l'air d'avoir essayé. » Moi je dis, « Mais si le vent se lève, on rentrera avant la nuit, tant pis. » Boer nous souffla que Graff alors allait nous tuer. Je dis à moitié résigné, à moitié joyeusement, « Moins vite que le vent. » À un moment, Émeric, un des trois donc, fait une découverte dans un bois. Émeric était accroupi devant l'entrée du trou. Il avait une main posée sur la cheminée qui dépassait à peine du sol. Elle était construite avec de véritables boisseaux. Autour, la neige avait fondu. Elle avait dessiné un cercle de feuilles mortes, d'aiguilles de pin et de vieux papiers délavés. Nous étions tellement surpris, Boer et moi, que nous avions besoin d'un moment à nous. C'est en silence que nous contemplions la découverte d'Emeric. Puis Emeric dit, tapotant sur le boisseau, « Regardez ça, c'est pas idiot, hein ?» Je répondis, « Si, un peu quand même, puisqu'on l'a trouvé. Je te parle du principe, c'est ça qui n'est pas idiot. » Le principe, d'accord, mais moi, c'est au fond des bois, plus loin, que j'aurais creusé. Puis on appela, une seule fois, et pas plus fort que ça. Les trous, nous le savions, n'étaient pas profonds. Il n'y avait jamais de galerie qui s'en allait. Un peu après, il sortit, en s'aidant avec les coudes, lentement, maladroitement, à cause des couches de vêtements qu'il avait sur lui. Et le dernier, celui qu'on voyait, c'était une veste de ville avec un col doublé. Elle était déformée et comme gonflée par toutes les couches en dessous. Une fois debout, il leva les bras. Pas une plainte, pas un mot. Nous n'entendîmes rien. Comme s'il s'y attendait. Dans son regard non plus, nous ne vîmes rien, ni peur, ni désespoir. À peine si à travers son foulard, nous l'entendions respirer. Le peu que nous apercevions de lui, c'était ses yeux, sous le bonnet de laine. Ils étaient sales et cernés, mais pas encore assez pour cacher son âge. Ils étaient fatigués, mais encore pleins d'éclat. Dans ce silence qui était presque le même que celui qui avait précédé notre appel, on le regardait et on souriait, pour ainsi dire, derrière nos écharpes. On marchait sans y croire depuis l'aube, et voilà que les yeux perçants d'Emeric venaient de nous l'amener. Et je regardais à nouveau l'entrée du trou, et je me demandais quelle raison l'avait amené à se cacher là, si près de l'orée du bois, plutôt que loin d'ici, tout au fond. On l'ignorerait toujours, car je ne voyais pas comment, avec des gestes, le lui demander, et lui pareil, comment il m'aurait répondu. Je lui fis signe de baisser les bras. Boer lui demanda avec les mains et en lui montrant l'entrée du trou s'il y en avait d'autres. De la tête, il nous répondit non. Et on n'eut pas un seul soupçon, on le crut. Un battement d'ailes nous fit tous lever la tête, même le juif. Du givre tomba des arbres pendant qu'une forme grise s'en allait entre les branches et disparaissait. Boer dit, il était là depuis le début. Emeric dit, nous aussi, on devrait s'en aller. Il s'agit donc d'un jeune juif qui se cachait dans la forêt, en ayant fait un trou dans la neige. Et ils vont donc, leur mission, c'est de le ramener au camp. Parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend justement quelle était leur mission. Trouver des juifs, les ramener au camp. Ils n'avaient pas le droit de les tuer sur place, ils devaient les ramener au camp où ils seraient exécutés. Ils se mettent donc en route, toujours dans le froid et la neige. Et puis, la maison apparut derrière une rangée d'arbres, une vieille masure toute délabrée. Ils rentrent et enferment le juif dans la resserre. Après de nombreuses péripéties, ils parviennent à faire un feu dans la vieille cuisinière. Parce que leur but, c'est de faire un repas, une soupe. Boer sort de sa poche à un moment un oignon, un morceau de saindoux, un saucisson. Où les a-t-il pris? On ne sait pas. Et puis, tout cela ajouté au pain rassis et à la semoule qu'ils ont déjà, ils ont vraiment de quoi faire un bon repas. Mais il faut faire un feu. Alors ils font le feu, il y a une cheminée, mais que vont-ils brûler dans la cheminée? Ils commencent par une chaise, un banc, une trappe. Il y a tout ce qui est en bois qui va disparaître justement dans la cheminée. Ils arrivent à faire fondre de la neige dans une vieille casserole. Et puis ils ont la visite d'un Polonais qui s'invite à leur repas. Il accepte parce qu'il a une bouteille d'alcool de pomme de terre qu'ils vont partager. Alors soudain, la faim qui nous avait un peu oubliés, cette faim que les cigarettes, l'alcool de pomme de terre et le feu dans la cuisinière avaient endormie, monta soudain de la casserole et nous retomba dessus comme si elle était vivante. C'est que la soupe était belle et sentait bon. Les tranches de saucisson portées par la semoule enfin cuite flottaient à la surface. Le saindoux fondu bouillait encore. Nous tournions le dos à la cuisinière. La chaleur nous caressait par derrière. Nous regardions la soupe qui fumait. La tête me tournait. Nous regardions les tranches de pain. La soupe bouillonnait encore. Le pain avait roussi sur les bords et nous rappelait des choses. Le Polonais apparut, sa cuillère à la main, du côté d'Emeric. En fait, il est allé se faire une cuillère avec un morceau de bois. Si on s'était serré, il aurait pu trouver une place à une extrémité du banc à côté d'Emeric ou moi. On n'y pensa pas. Lui non plus, d'ailleurs. Ça ne se posait pas. Je remarquai alors que ses mains étaient moins abîmées par le froid que les nôtres. Il souffla sur sa cuillère. « Et l'assiette ?» dit Boer en faisant un rond avec ses mains pour la dessiner. « Tu as oublié d'en faire une. Pas de chance. » Le Polonais comprit et eut peur. « J'eus peur, moi aussi. Moi, qu'on soit obligé de lui cogner dessus et de s'énerver si ça tournait mal, au moment où justement nous étions à table, affamés à nouveau. » Sauf que Boer avait raison. Dans quoi l'autre allait manger? On n'y avait pas pensé. On n'imaginait pas qu'il mangeât même la casserole. Dépêche-toi, lui lança Boer, va t'en faire une avant que ça refroidisse. » Il riait à moitié méchamment. Le Polonais blanc, tout d'un coup, serra sa cuillère dans la main comme s'il allait la briser et ouvrit la bouche pour parler. « Ta gueule !» lui dit Boer. Et il poussa son propre quart devant lui. Il n'y avait là aucune fraternité, évidemment, aucune gentillesse, mais l'envie comme nous de manger enfin. Le Polonais tout blanc encore fixait Boer, roulant des yeux. Dans sa tête, tout allait trop vite et à l'envers. Boer nous servit dans l'écart et tira la casserole à lui. Et on commença à manger. On mordit dans le pain chaud. On sentit le goût et l'épaisseur de la soupe. Tout était bon, le pain, la semoule des Italiens, les tranches de saucisson qui fondaient. L'alcool aussi, on le sentait bien. On se brûlait la langue et le palais. On fut heureux, mais pas longtemps. Car le Polonais soudain s'arrêta de manger avec cette drôle de façon qu'il avait, comme une vieille femme à cause de ses dents qui manquaient. Il s'arrêta tout net et ses yeux firent des fentes. Un sourire féroce lui déforma la bouche. Nous aussi, on arrêta de manger. On le regarda. D'où il était, il faisait face à la resserre. Assis sur sa veste, le juif y somnolait. Le Polonais dit des mots pas très forts, mais nous comprîmes que c'est aux Juifs qu'il les adressait et que leur sens était chargé de contentement et de mépris. Ça faisait de drôles d'imprécations. « Quoi, tu recommences ?» lui dit Boer. Le Polonais se tut, mais leva son quart fumant en direction de la resserre et se fendit à nouveau de son affreux sourire. Ce fut sans doute pour ce sourire-là que Boer décida d'une chose à laquelle Émeric et moi n'aurions jamais pensé, parce que nous n'étions pas Boer, et aussi sans doute parce que nous avions beaucoup moins bu d'alcool de pommes de terre que lui. Ainsi, il toisa un instant le Polonais, sans rien dire. Puis, il se tourna vers la resserre et appela. « Viens là, viens ici !» Le juif releva la tête et regarda vers nous. « Viens là, lève-toi !» dit Boer en désignant le côté libre de la table en face du Polonais. « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi faire ? » demandai-je, bien que l'ayant déjà compris. Boer me jeta un regard, puis m'ignorant, posa une main sur le manche de la casserole pour la désigner et d'une voix forte, il lança « Viens manger. Allez, lève-toi, viens ici. » « Non, dis-je, arrête, laisse-le là-bas. »« Pourquoi ?» me demanda Boer, tandis qu'à présent le juif se levait lentement, hésitant. Une fois debout, il se pencha pour prendre sa veste, mais Boer lui fit signe de la laisser par terre. Puis, un autre signe pour lui dire de sortir de la resserre. « Non, Boer, répétai-je, laisse-le là-bas. » Et Boer encore à nouveau, « Pourquoi ?» Je ne lui répondis pas. Pourquoi faire ? La réponse, il la connaissait. Il savait ce qu'on risquait pour notre morale en l'invitant à manger. Au début de l'automne, au mois d'octobre, deux juifs, deux frères, on pensait, avaient fait notre linge. Ils le savonnaient, le mettaient à bouillir dehors dans une baignoire et l'étendaient. Parfois, nous passions à côté d'eux. Parfois, nous les regardions travailler. Un jour, comme ça, après les avoir regardés un moment, nous leur avions parlé de leur façon de rincer. Nous ne la trouvions pas bonne. Il nous semblait voir encore le savon dans le linge qui pendait. On avait presque envie de se gratter. Ils avaient essayé de comprendre ce que nous voulions, mais pas sûr qu'ils aient réussi. Mais comme ils avaient fait l'effort, nous leur avions donné en douce à chacun une cigarette. Et dès lors, notre linge à nous, ils le pliaient en premier, même nos sous-vêtements, et le porter sur nos lits dans le gymnase. Si on était là à ce moment-là, nous leur passions encore une cigarette en douce. Et au lieu de se la fumer entièrement chacun pour soi, ils en coupaient une en deux pour ainsi fumer deux fois dans la journée. Sauf que, lorsque leur tour vint, on se souvenait tous bien les uns des autres. Pendant tout le mois d'octobre, c'est leurs mains qui allaient laver et plier notre linge et nos cigarettes qu'ils avaient fumées. Et par malchance, pour eux, pour nous, Parmi la centaine qu'ils étaient ce jour-là, c'est devant Boer et moi qu'ils s'allongèrent sur le ventre dans la clairière. Boer et moi ont voulu échanger nos places avec d'autres tireurs, mais le temps d'hésiter, de se demander comment faire, les autres à côté avaient déjà tiré. Alors bien obligés, on tira sur nos laveurs de linge. Et juste avant, l'un des deux nous avait jeté un regard plein de tristesse. Parce qu'il allait mourir, bien sûr, mais aussi nous avait-il semblé, parce que c'était nous qui le tuions. Ce jour-là, nous eûmes le cafard, Boer et moi. Je veux dire plus que d'habitude, et un cafard différent, singulier. Le soir, on en parla, dehors il faisait bon. Émeric nous aida. On comprit, c'était simple, que les nouveaux laveurs, nous n'irions pas les voir et pas leur parler, qu'il valait mieux ne rien faire avec eux qui ressemblât à la vie. Boer venait de me demander pourquoi le juif devait rester dans la resserre, mais la réponse depuis le mois d'octobre, vous voyez, il la connaissait. Le juif maintenant était presque sorti de la resserre. Il fit encore un pas et s'arrêta à l'emplacement de la porte. Il attendit là, comme sur le seuil d'une maison. Boer lui fit signe de continuer. Alors il sortit pour de bon de la resserre et s'approcha de la table. Le Polonais, debout en face de lui, commença à taper sur la table des petits coups nerveux avec sa cuillère. La rage brillait dans ses yeux. « Ferme ta gueule, lui dit Boer. Mange plutôt, bouffe, ça t'étouffera plus tard, tu verras. » Le Polonais s'arrêta de taper, posa ses mains sur la table, se pencha vers Boer et lui parla d'une voix rentrée et pleine de rage, retroussant ses lèvres, non plus comme un poisson mort, mais comme un animal. Et il se penchait de plus en plus vers Boer, semblant vouloir lui arracher le cœur. Il braillait tellement, il était en proie à une telle rage, que du regard, je cherchais nos fusils. Boer, lui, ne s'en faisait pas tant. Il l'écoutait, tout sérieux, attentif, comme si l'autre se confiait. Soudain, le Polonais se redressa, quitta Boer des yeux, et à la place de brailler, il se mit à rire, pointant sa cuillère vers le juif qui regardait toujours vers la fenêtre, et dans ce rire, on n'entendait pas l'ombre d'une gaieté. Son chien, que j'entrevoyais couché près de la cuisinière, se dressa, puis s'assit sur ses pattes de derrière. Ensuite, tandis que tout doucement le Polonais cessait de rire, je me penchai vers Boer et Émeric. « Foutons-le dehors, j'en ai assez. »« Moi aussi, dit Émeric, j'ai faim. »« Non, nous fit Boer joyeux, il va la payer sa soupe. Il va manger avec un juif, ça lui restera là. » Voilà, c'était donc... quelques extraits de « Un repas en hiver » de Hubert Mengarelli. J'espère vous avoir donné l'envie de le lire, un livre poignant. Merci pour votre écoute. À bientôt.